SBS Radio.
Journal et les grands titres de ce journal, le Brexit et les tumultes du départ de la Grande-Bretagne. Le Parlement britannique tente de faire passer une loi en rébellion contre le Premier ministre. De nouveaux heurts, une nouvelle fois donc à Hong Kong, on fera le détail dans ce journal. Et en Australie, la remise en liberté d'un pédophile condamné qui fait scandale. Début de ce journal avec le Brexit. Donc, le Parlement britannique a voté contre l'appel du Premier ministre Boris Johnson pour des élections anticipées. Boris Johnson a appelé donc à des élections nationales le 15 octobre après avoir reçu de la Chambre des communes britannique une annonce comme quoi elle se prononçait en faveur de l'adoption d'un projet de loi sur le retard du Brexit. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais la législation, si elle est adoptée, donc ce sera par la Chambre haute, cette législation empêchera le Royaume-Uni de quitter le bloc pendant 3 mois si le Parlement n'a pas encore décidé un accord et empêchera donc Boris Johnson de livrer un Brexit sans compromis. Bien que ce vote ait été perdu par le Premier ministre, il est toujours sur l'offensive. On l'écoute.
48 heures ago, he was leading the chant of stop the coup, let the people vote. Now he's saying stop the election.
Il y a à peine 48 heures, il lançait des slogans comme stop au coup d'État, laissez le peuple voter. Maintenant, il nous dit on ne veut pas d'élection, ne laissez pas le peuple voter. Eh bien, je ne vois qu'une seule explication. À ma connaissance, il devient le premier leader dans l'histoire démocratique de notre pays à refuser l'invitation à une élection. La conclusion évidente à cela, je le crains, est qu'il pense ne pas pouvoir gagner. J'exhorte donc ses collègues à réfléchir à sa versatilité du jour au lendemain et dans les jours à venir.
C'était donc Boris Johnson, vous l'aurez compris, il parlait à propos du chef de l'opposition, Jeremy Corbyn. En tout cas, l'Union européenne est disposée à prolonger potentiellement la date du départ du Brexit si le Royaume-Uni demande une prolongation. C'est en tout cas ce qu'a dit la chancelière allemande Angela Merkel. Elle estime qu'il est possible que les États de l'UE et le Royaume-Uni parviennent à un accord avant la date du départ fixé. On écoute le porte-parole allemand Stefan Seibert. Il déclare que même si l'EU serait disposé à retarder le Brexit, il y a des conditions.
Die Frage einer Fristverlängerung.
The question of an extension of the deadline in general would be up to Great Britain, up to the British government to request a delay from the EU. This has happened twice in the past, and if it happened again, the EU would address it.
Voilà donc pour le Brexit. L'Italie, maintenant, après quelques semaines de tergiversation, a nommé un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a présenté ses nouveaux ministres au président. Le point complet avec Anne Titreca depuis Rome.
Un gouvernement officiellement ni de droite ni de gauche, mais destiné à protéger les familles et le travail. C'est ainsi que Giuseppe Conte présente sa nouvelle équipe, 10 ministres 5 étoiles, 9 démocrates, pour un recentrage de l'Italie dans des politiques plus sociales. Un poids lourd du nouveau gouvernement vient d'ailleurs du Parlement européen. C'est le démocrate Roberto Gualtieri, président de la Commission des affaires économiques à Strasbourg, qui devient ministre de l'économie et des finances à Rome. Fin connaisseur des contraintes et des opportunités de l'Union européenne, il devrait, par sa personnalité, rassurer les partenaires et les créditeurs de la péninsule. Du côté des 5 étoiles, l'imprévisible Luigi Di Maio arrive aux affaires étrangères, un lot de consolation pour avoir perdu le titre de vice-premier ministre qu'il partageait avec Matteo Salvini. Le nouveau programme du gouvernement annonce un changement de route substantiel de l'Italie sur au moins 2 points. La politique économique ne laissera plus s'emballer la dépense publique et l'immigration sera gérée avec davantage d'actions en faveur de l'intégration des nouveaux arrivants et une concertation européenne.
Retour en Australie maintenant. La juge de la Cour fédérale, Mordy Brongberg, a ordonné mercredi au gouvernement fédéral de ne pas renvoyer la famille Tamoul au Sri Lanka avant le 16h vendredi. La famille qui vivait dans la ville de Bilolea, dans Queensland, affirme que la plus jeune de leurs filles est née en Australie et elle a besoin de la protection de la nation pour pouvoir rester dans le pays. S'adressant à Sky News, le leader de l'opposition Anthony Albanese a déclaré que le gouvernement devrait reconnaître la famille, contribuer à une communauté rurale et cesser de les utiliser pour en faire un jeu politique. On l'écoute.
Here you have a community in this regional town
that are asking for this. The local LNP member is asking for this, Ken O'Dowd. This is not about changing Australia's migration policy. Barnaby Joyce is not about changing Australia's migration policy either.
Voilà, donc c'était Anthony Albanese, le leader de l'opposition en Australie. De nouveaux heurts ont eu lieu à Hong Kong entre la police et les manifestants pro-démocrates, quelques heures à peine après que la chef de l'État de Hong Kong, Carrie Lam, ait annoncé que le gouvernement avait retiré les amendements à la loi sur l'extradition. Les amendements, s'ils étaient adoptés à l'époque, faciliteraient l'envoi de personnes en Chine continentale pour y être jugées. Madame Lam espère que le retrait officiel de ce projet de loi mettra fin à plus de 3 mois de manifestations en masse dans la ville. Pour Claudia Mo, qui est politicienne favorable à la démocratie, la rétractation de Madame Lam est arrivée bien trop tard. Elle a ajouté que les manifestations portaient désormais sur beaucoup plus que la législation. Les gens réclament la libération de Hong Kong de la Chine continentale, tout simplement.
The Carrie Lam concession, so-called concession, has come too little too late. The damage is done. The scars and wounds are still bleeding in Hong Kong. She thinks that she can use some garden hose to put out a hill fire. That's not going to be acceptable.
Voilà donc, c'était donc Claudia Mo. Sur place, les explications de Heike Schmidt, elle revient sur les raisons de la contestation.
En 2018, un homme tue sa petite amie enceinte à Taïwan. L'assassin fuit vers Hong Kong. Il avouera son crime, mais faute d'accord d'extradition, il ne pourra pas être renvoyé vers Taïwan pour y être jugé. Le gouvernement hongkongais décide alors d'amender l'ordonnance de délinquants en fuite qui doit permettre l'extradition de suspects vers Taïwan et Macao, mais aussi vers la Chine continentale. La Chine, où le Parti communiste au pouvoir contrôle les tribunaux et où plus de 99% des prévenus sont condamnés. L'opposition et nombre de juristes contestent alors ce projet qui, à leurs yeux, risque de mettre en cause l'indépendance de la justice hongkongaise, pourtant garantie jusqu'en 2047 en vertu du principe « un pays, deux systèmes ». Car qui pourra encore protéger les dissidents, les travailleurs sociaux, les prêtres ou encore les journalistes qui osent critiquer le géant chinois? Pendant 3 mois, des millions de jeunes et de moins jeunes descendent donc dans la rue et obtiennent finalement le retrait de cette loi considérée comme une menace pour l'état de droit à Hong Kong.
Et c'était Heike Schmidt pour RFI. En Australie, le trésorier Josh Frydenberg a confiance dans la croissance économique du pays, en dépit de la chute du PIB à son plus bas niveau en une décennie. Les nouvelles données du Bureau australien des statistiques montrent que l'économie n'a augmenté que de 1,4% au cours de la période des 12 derniers mois. Il s'agit de la croissance annuelle la plus lente depuis 2009, alors que l'économie mondiale était aux prises avec la crise financière. C'était donc en 2009. Cependant, le trésorier Josh Frydenberg a déclaré à Sky News que les Australiens ne doivent pas s'inquiéter. L'économie se porte bien dans l'ensemble. On l'écoute.
We continue to grow. We're in our now 29th consecutive year of economic growth. That's a record that's been unmatched by any other developed nations. And while Singapore and Germany and the United Kingdom and Sweden and others all experienced negative results in the June quarter, we have continued to grow.
Voilà, donc Josh Frydenberg, le trésorier australien. Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Mark Speakman, s'est engagé à veiller à ce que les auteurs d'infractions sexuelles contre les enfants soient correctement inculpés et condamnés à des peines plus longues. Son commentaire intervient avant la mise en liberté cet après-midi de Michael Guider, un pédophile en série qui avait tué Samantha Knight, une écolière de Sydney. C'était en 1986. La Cour suprême a rejeté un appel visant à prolonger la peine de prison de 68 ans, mais a imposé une ordonnance de surveillance de 5 ans assortie de 55 conditions très strictes. S'excusant auprès de la famille, M. Speakman a déclaré que la condamnation judiciaire des délinquants sexuels par le passé ne reflétait pas l'ampleur des dégâts causés. Il a également ajouté qu'aucun pédophile n'obtiendrait la même clémence en vertu des nouvelles lois plus strictes en Nouvelle-Galles du Sud. On l'écoute.
New South Wales has had the most comprehensive response of any state to the recommendations of the Royal Commission into Child Sexual Abuse. We have, for example, introduced an offence that attracts a maximum penalty of life imprisonment for persistent child sexual abuse. We have changed sentencing principles so that the average sentences now will be much stronger. The substantive law has changed, the sentencing has changed, and we have the most comprehensive criminal justice response to child sexual abuse in the country.
13h11, un petit mot de sport. La Suissesse Belinda Bencic a battu la Croate Dona Vekic pour s'assurer une place pour sa première demi-finale dans un grand chelem. C'est donc à l'US Open. La joueuse de 22 ans qui a éliminé la championne en titre et la première tête de série, Naomi Osaka, c'était au quatrième tour, a remporté donc ce match sur le score de 7-6, 6-3. Les deux femmes sont des amies et frappent souvent ensemble et jouent souvent ensemble. Mais Bencic affirme que la concurrence est prioritaire. On l'écoute.
First of all, you know, we were both after very tough times, the first time in the quarterfinal again. So I think for both, we was both very happy. And I think we are enough professionals, you know, to be friends off the court, but on the court, you know, to do our work and to keep it focused. And I think we did well. And I'm sure off the court, we are friends still.
Voilà, donc Belinda Bencic, on fera un retour complet sur le sport et notamment sur l'US Open dans quelques instants dans le journal des sports. Coup d'œil météo maintenant. À Perth, aujourd'hui, il fera 20 degrés. Adélaïde, maximum de 14. Melbourne, 14 également. Hobart, 14. Canberra, 18. Wollongong, 23. Sydney, 25. Brisbane, 34. Cairns, 29. Et Darwin, 32 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité, on l'a vu, le Brexit et les tumultes du départ de la Grande-Bretagne. Le Parlement britannique tente de passer une loi contre la rébellion contre son Premier ministre. Des heurts une nouvelle fois à Hong Kong, on vient de l'entendre, malgré le fait que la loi ait été retirée. Et en Australie, la remise en liberté d'un pédophile condamné qui fait scandale.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.